exactement la plus basse de la Terre. Et on va faire maintenant quelques kilomètres encore vers le nord, dépasser même Masada, Ngadi, et on va passer la nuit sur une terrasse qui domine la mer Morte, à peu près en face de l'Arnon. Et on va camper sous les étoiles. On a déjà beaucoup campé sous les étoiles. On a écouté leur langage à la faveur de nos insomnies. Les étoiles dont parle le psaume 8 et le psaume 19, avoir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter? Mais là, on va camper ici dans le désert, pas loin du désert de Bethléem, où étaient les bergers pendant la nuit de Noël. On va évoquer aussi David dans les canyons du désert. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin, dit Jésus dans l'Apocalypse. On va aussi rejoindre le fameux Bar Korba, le fils de l'étoile, en descendant dans les grottes de Mourabat. Et puis, au nord de l'Arnon, en contemplant le pays qui est au nord de l'Arnon, on va être amené aussi à parler de Balaam, l'ancêtre des rois mages. Voyez-vous, vendredi prochain, on fera un circuit dans les horizons de Bethléem en relisant le prologue de Matthieu à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. On va voir comment ce bon scribe, tirant de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles, compose cette généalogie du Nazoréen à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors il faut ramasser précieusement au passage tout ce qui est supposé connu. Et d'abord, tenez, il y a un texte ici sur les étoiles qu'il faut lire dans le Deutéronome. Ça fait partie du langage de l'élection imprescriptible. Nous allons beaucoup parler de ça aujourd'hui avant de passer de l'Ancien au Nouveau Testament, demain, de Moïse à Jésus-Christ. Prenez bien garde à vous-même, dit le Deutéronome chapitre 4, verset 15. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur à l'oreille vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée, représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme, figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Et quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Le Seigneur ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel, mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le faire l'Égypte, pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes encore aujourd'hui.
Et depuis le sud de la mer Morte, là nous avons en face de nous les montagnes de Moab maintenant. Ce torrent sortait dans le désert du pays des Amorites. Ils partirent de là et campèrent au-delà de l'Arnon. Alors l'Arnon, je viens d'en parler, hein, vous l'avez maintenant à peu près en face de vous. Ce torrent sortait dans le désert du pays des Amorites. L'Arnon était à la frontière de Moab, entre Moab et les Amorites. Alors ici, il faut savoir qu'à l'époque où se passe cette aventure des 40 ans, le roi de Moab avait été dépossédé de cette partie qui lui appartenait en droit de territoire au nord de l'Arnon. Alors vous voyez, ce qui se passe, c'est que les Hébreux, qui ne font pas la guerre à Édom et à Moab, qui refusent le passage parce qu'ils ont des liens de parenté, eh bien, à ce moment-là, ils se disent, ce sont des barbares avec qui on n'a rien de commun, au nord de l'Arnon, ça appartient peut-être en droit à Moab, mais enfin, pour le moment, en fait, c'est pas à eux, c'est à des Amorites, on ne va pas se priver de leur faire la guerre. Et d'un seul coup, d'un seul, ils s'emparent de tout le territoire de Transjordanie, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, dont on parlera un peu plus loin. C'est au nord de Jéricho, là, le Jabbok, là où se passe l'histoire de Jacob qui lutte avec l'ange. On aura l'occasion d'en parler. Vous regarderez sur la carte. Hein. Et c'est Sihon qui avait fait la guerre au premier roi de Moab. Il y avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi de Moab, il voit partir ses Amorites, ses barbares, mais il voit s'installer à leur place les Hébreux. Et alors, il est pris de panique, car ce peuple était fort nombreux, ce peuple nouveau. Et cette multitude est en train de tout brouter autour de nous, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie mander un voyant qui était extrêmement célèbre, à Balaam, un certain Balaam. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de trois personnages qui, bien que n'appartenant pas au peuple élu, ont un grand rôle dans la destinée de Melchisédek, on l'a pas encore, Jéthro et Balaam. Alors, il habite, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve. Quand on parle du fleuve, c'est l'Euphrate. Il vient de Mésopotamie, là-bas. Et il lui dit, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ainsi pourrons-nous le battre et le chasser, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Balaam, qui vient des environs du pays d'où vient Abraham, au fond, a une réputation de magicien. Et alors on va le payer pour qu'il fasse des malédictions qui vont comme aller qui vont neutraliser les bénédictions faites à Abraham. C'est très curieux cette histoire-là. Il y a pas mal de rapprochements. Alors on va voir, c'est un récit à suspense, il faudrait le lire en faisant valoir toutes les nuances. Balaam est partagé entre le bénéfice qu'il peut faire en maudissant, et puis Dieu le contraint à bénir. Et nous avons alors les textes les plus explicites de ce qu'on peut appeler le messianisme royal, de l'élection imprescriptible. On a parlé de nouvelle alliance tout à l'heure, mais ce serait une grosse erreur. Et je crois que les Juifs ont raison de protester là contre, parce que c'est, et puis ça, les chrétiens aussi qui voient ça trop superficiellement disent bon, le peuple juif c'est fini, c'est une nouvelle alliance, ce qui a complètement abrogé l'ancienne. Maintenant, c'est une alliance que Dieu poursuit à travers un peuple élu, et alors elle est nouvelle, mais il y a le peuple garde la marque de l'alliance imprescriptible, c'est ce que disait saint Paul dans l'épître romain, les dons de Dieu sont sans repentance. Alors vous sentez l'importance des textes que nous lisons ici pour la compréhension du Nouveau Testament. Et pour l'équilibre d'une théologie, justement, puisque maintenant on vient de nous rappeler que la destinée du peuple juif, méditer là-dessus, ça fait partie essentiellement de la théologie de l'Église. Alors, Balaam, je ne vais pas tout lire, ça serait... Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alors Balaam renvoie les émissaires que lui envoyait Balak, le roi de Moab, qui était prêt à lui donner tout l'argent qu'il demanderait. Alors Balak envoie de nouveaux princes, plus nombreux, plus considérés que les premiers. Ne refuse pas de venir, je t'accorderai les plus grands honneurs et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc et maudis-moi ce peuple. Alors Balaam répondit, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Dieu mon Dieu en aucune chose petite ou grande. Maintenant, sait-on jamais, parce qu'on a passé la nuit ici. Et alors Dieu lui apparaît, lui dit, lève-toi cette fois-ci et pars avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Au matin, Balaam se leva, c'est là son ânesse et partit avec les princes de Moab. Son départ excita la colère de Dieu, et l'ange de Dieu se posta sur la route pour lui barrer le passage. Ça reflète la complexité des voies de Dieu. On ne sait jamais très bien. Moi, j'ai une grande dévotion pour l'ânesse de Balaam. Il y en a qui pensent que les ânesses ne parlent pas. Moi, je crois que ce sont des ânes. L'ânesse de Balaam, justement, c'est toutes les voies qui se bouchent, sauf la seule qui m'a dit quelque chose. Quand on est vieux, quand on repasse le passé, là, on a une grande dévotion. On devrait avoir une grande dévotion pour l'ânesse de Balaam. Alors, l'ânesse vit l'ange de Dieu posé sur la route, posté, son épée nue à la main. Elle s'écarta de la route à travers champ. Mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange de Dieu se tint alors dans un chemin creux, au milieu des vignes, avec un mur à droite et un mur à gauche. Dans ce désert, peut-être vous étonnez qu'on parle de vignes, mais de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. L'eau qui ne se condense pas ici dans la dépression, les nuages se condensent de nouveau là-bas sur les montagnes de Moab qui sont plus hautes. Quand il y a une famine à Bethléem, rappelez-vous, Noémie, elle s'en va en Moab, où il y a une zone de fertilité qui va très très loin vers le sud. Elle s'écarta de la route à travers champs, mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange de Dieu se tint alors dans un chemin creux au milieu des vignes avec un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse fit l'ange de Dieu rasa le mur, y frottant la jambe de Balaam. Il la battit encore une fois. L'ange de Dieu changea de place et se tint en un passage resserré où il n'y a pas d'espace pour passer ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse fit l'ange de Dieu, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et battit l'ânesse à coups de bâton. Alors Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Il y a le journal des étudiants, il s'appelle Pi à Aton. Iton, c'est le journal, on a changé Aton, de la bouche de l'ânesse. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies battu ainsi par trois fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est que tu t'es fiché de moi. Si j'avais eu à la main une épée, je t'aurais déjà tué. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi envers toi? Répondit, non. Alors Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de Dieu posté sur la route, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna la face contre terre. Et l'ange de Dieu lui dit, pourquoi as-tu battu ton ânesse par trois fois? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. Balaam répondit à l'ange de Dieu, j'ai péché, j'ignorais que tu étais posté devant moi sur la route. Et maintenant, si cela te plaît, je m'en retourne. Mais Dieu dit à Balaam, va avec ces hommes, seulement ne dis rien de plus que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes envoyés par Balak. Alors vous avez un récit à suspense ici, je vais surtout m'attarder sur les prophéties. Et si vous regardez bien là-bas, ou si vous fermez bien les yeux, vous verrez l'étoile qui se lève. Or Dieu vint à la rencontre de Balaam. Il y a d'abord Balaam qui dit à Balak, tu vas me bâtir 7 autels, tu vas m'amener 7 taureaux, 7 béliers, et puis peut-être Dieu fera-t-il que je le rencontre, et ce qu'il me fera voir, je te révélerai. Il s'en alla sur une colline dénudée, c'est pas ce qui manque dans le paysage. Or Dieu vint à la rencontre de Balaam, et il lui mit une parole dans la bouche, retourne auprès de Balak, et voilà ce que tu vas dire, et il prononça son poème. Premier poème. Balak me fait venir d'Aram, le roi de Moab, des monts d'Orient, de Kedem. Viens, m'a-t-il dit, maudis-moi Jacob. Viens, fulmine contre Israël. Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je quand Dieu ne fulmine pas? De la crête du rocher, je le vois. Du haut des collines, je le regarde. Voici un peuple qui habite à part. Am levadat yishkon. Bon, l'élection, ça nous plaît pas. Le problème n'est pas là. C'est de savoir si ça fait partie du plan de Dieu. Et de savoir comment il évolue. Am levadat yishkon. Adonai badad yanchenu, dans un autre texte. Dieu est seul à le conduire. Il a une providence spéciale pour ce peuple élu. Qui n'est pas comme les autres. Il n'est pas rangé parmi les nations. Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la nuée d'Israël? Puisse-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être comme la leur? Alors Balak, évidemment, il n'est pas content. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis. Et voilà que tu prononces tes bénédictions? Balaam reprit, ne dois-je pas prendre soin de dire ce que Dieu me met dans la bouche? Alors Balak dit, c'est raté, viens ailleurs. Il croit que c'est parce qu'il a mal fait ses machinations de divination. Alors on va faire un autre hôtel, tu n'en vois qu'un bout, on va aller à un endroit où tu verras mieux, etc. Alors, deuxième poème. Lève-toi, Balak, et prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai, et je ne me reprendrai pas. Je n'ai pas aperçu de malédiction en Jacob, ni de souffrance en Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Dieu avec lui, ça c'est... Je suis avec ça. Chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme des cornes de buffle. Il n'y a pas de présage contre Jacob, il n'y a pas d'augure contre Israël. Alors Balak dit à Balaam, ne maudis pas, soit du moins ne bénis pas. Ne t'avais-je pas dit, répond Balaam à Balak, tout ce que Dieu dira, je le ferai. Viens donc, je t'amène ailleurs, etc. Puis ça recommence, cet hôtel, cet taureau, cet bélier, heureux. Balaam vit alors que Dieu trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla pas comme les autres fois à la recherche d'un présage, se tourna face au désert. Il vit les tribus. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Vous savez, le prophétisme, ça pose un problème dans la tradition juive. Comment est-ce que le prophétisme, un des grands auteurs du judaïsme, Yehuda Lévi, dit qu'un païen qui se convertit au judaïsme, l'esprit de prophétie ne... Alors ici, voilà qu'un païen qui se convertit au judaïsme, l'esprit de prophétie ne... Alors ici, voilà que l'esprit de prophétie s'empare d'un païen. Ça pose beaucoup de problèmes. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Il prononça son poème et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que Shaddai fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que Dieu a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance, il domine sur des peuples nombreux, son roi est plus grand qu'Agag, sa royauté s'élève, Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme des cornes de buffle. Béni soit qui te maudit, qui te bénit, et maudit soit qui te maudit. Alors Balak se mit en colère, il frappa des mains. Il dit à Balaam, je t'avais mandé pour venir mes ennemis, et voilà que tu les bénis par trois fois, et maintenant, déguerpis, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, c'est Dieu qui t'en a privé. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit déjà à tes messagers, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Dieu et faire de moi-même ni bien ni mal. Mais ce que Dieu dira, c'est ce que je dirai. Maintenant que je pars chez les miens, viens, je vais t'aviser de ce que ce peuple fera à ton peuple dans l'avenir. Alors il prononça son poème et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre, une étoile issue de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. Et Balaam se leva, partit, retourna chez lui. Balak lui aussi passa son chemin. Alors ce Balaam là est celui, apparaît comme celui qui formule de la façon la plus nette ce qu'on appelle le messianisme royal. Et saint Paul certainement, quand il dit que les dons de Dieu sont sans repentance, fait allusion à ce langage. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'Adam pour se raviser. Et alors ce peuple est béni, il reste béni, et il ne peut pas ne pas garder la marque de l'élection. C'est tout ce qui fait justement le drame quand on étudie l'histoire juive. D'autres vous en parleront mieux que moi. Un souvenir ambigu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais pour en venir à saint Matthieu, à son prologue que nous lirons la semaine prochaine, à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, il n'y a pas doute qu'il apparaît comme l'ancêtre des rois mages. Les païens qui ne connaissent pas la Bible arrivent sous la direction d'une étoile à Jérusalem. Le roi Hérode, qui est le roi des Juifs, puis qui n'a pas l'air d'avoir une culture biblique très, très poussée, fait appel aux scribes qui l'interrogent pour savoir, qui l'interroge pour savoir où doit naître le Messie. Les scribes répondent, mais c'est évident, c'est à Bethléem, tout le monde le sait, comme c'est écrit dans le prophète Michée. Mais alors, les scribes qui savent la Bible par cœur ne se dérangent pas. Tandis que les païens, là, qui, dirigés par l'étoile, arrivent, se prosternent devant la crèche, devant... Et puis, on voit ce messianisme-là aboutir à l'Emmanuel de la crèche. C'est tout le drame que... saint Matthieu, comme saint Paul, lui aussi, est juif. Il s'appelait Lévi, il était assis au bureau de la douane entre Bethsaïde et Capharnaüm. Et pour lui, comme pour saint Paul, c'est un drame terrible. Comment peut-il se faire que ce peuple qui était préparé par une providence spéciale, par la réception du Messie, lorsque le Messie se présente, ne se dérange pas, se désintéresse et même nie, étouffe l'affaire. Et c'est le même drame qu'on trouve partout dans le Nouveau Testament et qui est vécu toujours par les Juifs qui sont, par les chrétiens qui sont d'origine juive. Alors on prendra ça lorsqu'on lira saint Matthieu, il fallait le ramasser au passage.
Simplement une petite question, oui, avant de continuer, c'est une question un peu naïve, mais on parle toujours des rois mages, mais quand on regarde l'écriture, on parle des mages.
Les mages, oui, c'est ça. Non, les mages, oui. Mais Balaam, restons simplement sur ça. C'était dans mon enfant, j'en avais parlé des rois mages, on disait même leur nom de mon temps. Il y en avait un noir, il y en avait un jaune, il y en avait un blanc. Bon, mais maintenant, voyez-vous, ici nous sommes à l'endroit où nous passons la nuit. Et alors on grimpe sur ce plateau d'où on voit les montagnes de Moab dans la lumière du soir qui est très très belle. Et puis alors on fait une excursion qui est très impressionnante, vous l'avez fait tous les deux là. On descend dans des grottes, dans la lancée de ces fameuses découvertes épigraphiques de Qumran, dont on aura l'occasion de parler. Si j'en parle pas, c'est parce que tout le monde en parle et vous trouvez ça n'importe où. Moi, je crois qu'on peut se concentrer sur ce qu'on dit pas ordinairement dans les voyages et les pèlerinages. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je fixe l'attention sur ce qu'on ne dit pas habituellement et qui me paraît important à redécouvrir. Alors on descend dans des grottes où, dans la lancée des découvertes épigraphiques de Qumran, là, on a retrouvé une lettre signée Bar Korba. Est-ce que vous savez qui c'est ce Bar Korba?
Le fils de l'étoile.
Oui, Korab en hébreu, Korba en araméen, Ben en hébreu, Bar. Hein. Et Bar Korba, alors, et on parle de la deuxième révolte, on pourrait parler de la troisième. Bah, il y a une première révolte en 70, là, lorsque Jérusalem a été détruite, et Masada qu'on a dépassé. Bah, il y a eu une résistance héroïque là, de Zélotes qui ont préféré s'entretuer, se suicider, plutôt que que de se rendre aux Romains, et les Romains ont dû faire pour créer Massada tout un appareil de siège comme en France, montant de Sergitorix et d'Alésia, une circonvallation, des machines de guerre, etc. C'est un fait héroïque. On l'a dépassé. Moi, l'élan de l'étoile, mais moi, ça me paraît plus intéressant de nous arrêter ici à Bar Corba. C'est là qu'on voit mieux encore qu'à Massada le clivage. Déjà, à Massada, les chrétiens ne s'étaient pas solidarisés avec la résistance juive. Ils étaient partis à Pella, une ville de la Décapole en Transjordanie. Mais alors, au temps de Bar Corba, ils ne s'étaient pas solidarisés encore moins. C'est en 135. Et entre ces deux révoltes, il y en a une, alors, au temps de l'empereur Trajan, où les juifs de tout l'empire se sont révoltés alors que l'empereur Trajan était occupé sur les marches orientales de son empire. On en parle moins, mais elle était aussi très importante. Alors, la troisième révolte, et les historiens vous disent que le clivage vraiment s'est fait à cette époque-là. À Jérusalem, en tout cas, on connaît d'après l'historien Eusèbe de Césarée la liste des évêques depuis les origines. Ils ont des noms sémitiques jusqu'à cette révolte de Bar Corba, et ensuite ils ont des noms grecs. Il y a dû avoir un bouleversement aussi dans la chrétienté à cette époque-là. Et ici, on a trouvé une lettre signée Bar Corba. Bar Corba n'est pas tendre pour ces Nazaréniens qui ne se solidarisent pas avec sa révolte contre les Romains. Tenez, on va résumer un peu cette révolte de Bar Corba. Ça sert comme de fond de tableau au messianisme. Alors, nous remontons des grottes, et puis ensuite, c'est le Shabbat qui arrive, et on attend que la première étoile se lève. Et avec un peu de chance, on voit la première étoile. Là. Il y en a une qui se lève toujours avant les autres, et qui reste un quart d'heure au moins toute seule.
Alors, c'est juste dans les horizons de Bethléem, là-bas, les collines. Et les étoiles sont au-dessus de Bethléem.
Alors, avec un peu de chance, on s'élève au-dessus de Bethléem et on célèbre l'Eucharistie à la fin de cette première semaine, comme ça. Alors, il y a un prix pour celui qui, le premier, voit l'étoile. Alors, je vous résume, j'ai trouvé ça simplement dans Marguerite Yourcenar. Moi, j'aime bien les historiens qui ont bien digéré leur matière et qui racontent. Alors, la cause, ça a été, semble-t-il, le projet qu'avait fait l'empereur Hadrien. Jérusalem avait été complètement détruite par Titus en 70. Et Hadrien, qui règne dans les années 130 après Jésus-Christ, forme le projet de construire sur les ruines de Jérusalem anéanties par Titus une ville païenne qui s'appellera Elia Capitolina. Alors ça, excité par la révolte juive, mais cette fois-ci elle était très bien planifiée. On a tiré des leçons de la révolte 70, on a trouvé un commandement unique qui a duré jusqu'au bout. En 70, les Juifs s'entretuaient alors que les Romains arrivaient, relisait Flavius Joseph. On choisit le moment où l'empereur est loin, on évite de s'enfermer dans les forteresses, on met tout le peuple sous le pied de guerre et on trouve un chef spirituel de très grande envergure, Rabbi Akiba, qui voyage dans toute la diaspora pour trouver du soutien dans la Gaule, dans l'Afrique, à Babylone. On n'a pas de Flavius Joseph comme en 70 pour faire l'histoire de cette révolte. On avait pour source, jusqu'à l'époque actuelle, que ce qui est dit dans le Talmud, dans un historien qui s'appelle Dion Cassius, historien entre guillemets, et puis les trouvailles archéologiques qu'on a faites ont amené beaucoup de renseignements complémentaires. Alors, Bar Corba, le fils de l'étoile, mais tout le monde n'était pas d'accord. Et il y en a qui, au lieu de dire Bar Corba, le fils de l'étoile, héritier du messianisme davidique, l'étoile de David, le traité de Bar Koziva, pas Kazav, ça veut dire la déception et le mensonge. Et certains qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Akiva, tu penses que le Messie vient, mais non, de l'herbe te poussera entre les dents avant que le Messie ne revienne. Alors la révolte a commencé en 131, elle s'est étendue à toute la Judée, elle s'est concentrée sur Jérusalem, que la célèbre Legio Decima Fretensis, la 10e légion, a dû évacuer. Les chrétiens d'origine juive ne se sont désolidarisés. Mais alors on a cru vraiment que c'était arrivé. On a inauguré un calendrier, 131 c'est la première année de la rédemption d'Israël. On a mis au point une administration exemplaire avec le cadastre, la fermage des terres, les commandants régionaux, la monnaie en surimpression sur la monnaie romaine. On a essayé de soulever les juifs de Galilée, mais cet essai ne semble pas abouti. Alors les Romains ont pris tout de suite l'affaire très au sérieux. Jules Sévère a été appelé de Bretagne, l'empereur lui-même est venu en Palestine. On a amené des légions de tous les coins de l'Empire, de la Syrie, de l'Arabie, de la Misie sur le Danube, de l'Égypte. Et la stratégie romaine, alors prudente, a resserré l'étau lentement. Et on raconte l'histoire d'une 22e légion qui s'est aventurée venant d'Égypte, aux environs de Beto Gabris. Elle s'est fait complètement anéantir pour avoir voulu se distinguer en faisant une opération à elle toute seule. On n'en parle plus dans l'histoire de l'armée romaine. Alors, en 133 et en 134, l'étau se resserre implacablement. Jérusalem est évacuée la troisième année de la révolte. Dion Cassius dit que les Romains ont capturé 50 forteresses, ont détruit 985 villages, ont tué plus de 1 million de personnes. Et l'empereur Hadrien, lorsqu'il revient à Rome, l'a eu tellement dur qu'il omet d'adresser au Sénat la formule ordinaire « L'empereur et l'armée se portent bien tellement il a eu dur ». Alors on a fait des tas de découvertes intéressantes, là vous trouverez ça dans tous les livres, qui nous renseignent sur la vie économique, sur la vie civile et religieuse, et puis une lettre signée par Corba. Alors cette révolte, ça s'est terminé en 135, la bataille ne s'est pas déroulée ici, hein, mais à l'ouest de Jérusalem, à Bétar. Si vous prenez le train à la gare, quelques minutes après le départ, vous êtes aux environs de Bétar, qui a été prise à la fin de l'été 135. Ensuite, alors comme toujours, on vient se réfugier dans les cavernes du désert de Juda. Dans le désert de Juda où nous sommes maintenant, il y a une faune humaine qui est toujours identique, on voit des bandits qui détroussent les voyageurs comme dans la parabole du bon samaritain, des moines qui viennent chercher ici la solitude dans un désert assez habitable, il y a des sources un peu partout, et puis des réfugiés politiques. Et si j'avais le temps, je vous évoquerais ici, dans les canyons, un personnage qui pour moi est plus contemporain que Bar Corba, bien qu'il ait vécu plus de 1000 ans avant. C'est David. David a erré dans ces canyons, pas dans celui-là précisément. L'histoire du manteau de Saül coupé au fond de la grotte, c'est à Engedi qu'on a déjà dépassé. Mais tous les canyons se ressemblent ici. Et j'aurais évoqué ici David dans le désert de Juda. De David, le certain psaume. De David quand il était dans le désert de Juda. Vous connaissez le psaume qu'on chante à l'aube, là, les jours de fête et le dimanche de la première semaine. De David, Seigneur, tu es mon Dieu. Elohim Eliata Ashahareka, Seigneur, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube.
Mon âme a soif de toi. Oui. Ma terre languit de toi comme une terre desséchée. Oui. C'est vraiment le lieu pour pouvoir.
Bar Corba m'apparaît comme une sorte de glorieux anachronisme. Tandis que David, qui est bien intérieur au christianisme, apparaît comme quelqu'un qui est en marche. Et alors, on peut le trouver comme compagnon de route, parce que nous sommes tous, encore une fois, en retard, anachronique par rapport à l'évangile. On a besoin d'être récupéré tel que nous sommes là où nous en sommes. Et David nous apprend à prier, nous apprend à marcher, nous apprend à être sincère, nous apprend à laisser la lumière de Dieu balayer le fond de notre cœur pour mieux rebondir dans l'existence et nous amener au Christ. Bar Corba, j'avoue, interfère plutôt, pour moi, chrétien, si glorieuse que soit son épopée. Et Masada aussi, c'est pourquoi. Mais c'est plus intéressant ici, à mon avis. Et puis alors, encore une fois, pour la BST, je conseille aux gens de rester plus longtemps, parce que beaucoup de choses faciles d'accès, et où il y a toute une littérature surabondante, alors je ne les fais pas dans la BST qui est centrée sur un sujet donné, mais ils ont tout loisir après ça de le faire eux-mêmes par leurs propres moyens, et ils peuvent très facilement par les transports en commun aller à Masada, et puis...